Et vous écoutez France Culture. Ce que je veux réellement, c'est faire des livres que tout le monde puisse ramener chez lui. Le monde enfermé dans ce livre doit être narratif pour qu'on puisse y plonger et s'y perdre. Brecht, Evans. Et pas d'erreur, c'est mauvais genre. Mauvais Jean qui sera en ce samedi en visite dans l'atelier du dessinateur et scénariste Brecht Evans, émeute chromatique, action fourmillante et babil intarissable, un monde sans bulle ni cadre, dans les nuits sans fin de Brecht Evans, c'est ce soir dans Mauvais Jean. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Mauvais Jean en visite. Alors après de nombreuses visites, la dernière étant chez notre ami Ossan, eh bien nous sommes ce soir un peu plus haut dans Paris chez Brecht Evans que je salue.
Bonsoir.
Je serai en compagnie, bien sûr, d'Antoine Guillot qui est là.
Bonjour François, bonjour à toutes et à tous.
Alors, Brecht Evans, Antoine Guillot, n'est pas un nouveau venu à Mauvais Jean, puisque je suis plongé avec délectation, bien évidemment, dans nos archives, et j'ai pu voir que par trois fois déjà, vous l'aviez chroniqué. Donc les auditeurs fidèles ou moins fidèles ont eu toutes les chances de le découvrir.
Oui, parce que ça fait quand même un certain temps qu'on le suit, ce Brecht Evans, mais pas depuis si longtemps. En fait, les plus aventureux l'avaient découvert en 2009 dans une exposition à Angoulême qui s'appelait « Ceci n'est pas de la BD flamande ». Parce qu'il faut savoir que la frontière linguistique entre la Belgique francophone et la Belgique néerlandophone est aussi une frontière culturelle qui fait qu'en France, on sait très peu, en tout cas pendant longtemps, on ne savait pas ce qui se passait dans le nord de la Belgique. On savait qu'il y avait un certain Willy van der Steen qui faisait Bob et Bobette. On savait que Spirou s'appelait Robe 12 là-bas, mais c'était à peu près tout. Et puis on a découvert cette bande dessinée flamande dans les 10 dernières années. Donc il y a eu en 2009 cette exposition. 2 ans après, Brecht Evans recevait le prix de l'audace à Angoulême pour Les Noceurs, son premier livre qui était issu d'un travail de fin d'études à l'Université des Beaux-Arts de Gand, Saint-Luc, hein, institut fameux. Alors à Bruxelles, ça donnait Franquin. Et puis à Gand, ça a donné Brecht Evans et toute une avant-garde qu'on a découvert après, de ma façon plus large, c'était en 2013, nouvelle exposition sur la bande dessinée flamande à Angoulême, ça s'appelait la boîte à gants, et on voyait que Brecht Evans n'était pas seul.
Alors bonsoir Brecht Evans, on va d'abord rapidement jeter un coup d'œil sur cet atelier parce que le voyage se mérite, vous êtes sur les hauteurs de Paris, on dira pas où, mais au 7e étage sans ascenseur, donc véritablement pour venir vous voir c'est totalement ascensionnel, est-ce qu'il y a une volonté chez vous d'être sur les hauteurs ?
Ouais, effectivement on a dû attendre une demi-heure avant de pouvoir enregistrer nos voix, avant de ne plus être essoufflé. Ouais, j'étais dans une autre petite appartement dans le coin avant avec... Un magnifique vue sur Paris, au pied du lit. Du coup, là, dans le nouveau, là, j'ai rehaussé mon lit dans la tentative de recréer ça. Ça marche pas exactement, mais dans l'idée, c'est ça. Je veux avoir la ville à mes pieds, je suppose. Comme ça, même quand je sors pas chez moi, je me rends compte que j'habite à Paris. Il faut quand même savoir ça, sinon pourquoi payer tout ça ?
Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu vous installer à Paris, puisque vous étiez à Gand, que les visiteurs de la ville d'Anvers peuvent découvrir un mur peint magnifique que vous avez fait, comme un certain nombre d'autres. On a été surpris, je dois vous avouer, je ne savais pas, moi, que vous étiez installé à Paris. En lisant votre dernier livre, peut-être qu'on l'aura compris, parce qu'il y a quelque chose, entre autres, de parisien dans les rigoles. Hein, les rigoles, nom d'un bar fameux à Paris. Nous sommes allés, avant de vous rencontrer avec François tout à l'heure, on est allé en repérage. Pourquoi Paris ?
Il y a une version courte et longue de, comment dire ça, disons très court, c'était une décision très impulsive. J'étais censé rentrer du Jura, où je visitais un ancien prof et ami, et au lieu de faire le changement de train et rentrer à Gand, je suis resté à Paris. J'ai annulé mon appartement belge. Il y a tout genre de raisons pour ça, mais ça nous emmènera plus loin. J'étais fou à l'époque, et cet épisode fou en grande partie inspiré les rigoles. Donc j'ai passé 4 ans après à faire de la BD pour digérer mon année 2013, ou un peu toute ma vingtaine en fait.
C'est pour ça que les rigoles commencent par un déménagement, alors. C'est une histoire de carton et de dernière fête avant de partir.
Ouais. Oui, c'est vrai, il y a déjà ça. Cet personnage-là était inspiré d'encore une autre personne que j'ai connue qui... D'ailleurs, j'ai fait ce que je pouvais, mais le vrai personne sur lequel c'est basé est encore plus particulière que le personnage que j'ai pu écrire. Il y a quand même toujours des grands morceaux de moi dans le personnage que j'écris quand ils doivent parler.
Merci Brecht Evans. Donc nous sommes ce soir à Mauvais Genre en visite dans votre atelier. On va pratiquer après l'encyclopédie pratique des Mauvais Genres une visite plus détaillée de cet atelier. Mais en attendant, place à vous, ma chère Céline. Et avec qui ce soir?
Avec Joris van de Mortel, artiste plasticien et musicien belge. Qui me paraît plutôt gay pour une danse macabre.
Quand tu regardes les danses macabres, ils ne sont pas déprimés. Les squelettes sont toujours joyeux. Ils rient. Ils font des fêtes.
C'est vrai que lorsque l'on regarde la danse macabre de Michael Wolgemuth, peintre de la Renaissance allemande qui a servi d'inspiration à Joris van de Mortel, on est frappé par l'énergie que mettent les squelettes à danser. Une énergie que l'on retrouve dans le travail du plasticien anversois, dont les performances sont toujours très rock, placées sous le signe de la déconstruction. Donc on imagine bien que si Joris van de Mortel a choisi d'investir le thème de la danse macabre, c'est pour le faire à sa façon et le mettre en résonance avec le monde contemporain.
L'œuvre s'appelle A Day in the Life, Dance of Death. C'est une œuvre sur le thème de danse macabre. La base de l'œuvre, c'est un dessin collage qui était fait à une mesure de 2 mètres par 2 mètres. Et après, c'est une technique que j'utilise parfois. Je fais un scan de l'original et je l'imprime sur un film photographique. Comme ça, le dessin devient transparent. Et le dessin était entre 2 plexis et derrière, ils ont des vrais objets que j'utilise pendant une performance qui s'appelle les 7 sacrements pour une performance, avec 7 éléments que j'utilise parfois pendant des performances. Un des éléments était des peintures blanches, le feu, le verre, la nature qui était symbolisée par des oiseaux, vandalisme. Et ici, tu vois une guitare dans l'œuvre qui était complètement vandalisée. Aussi de la cire et de la fumée. Ça a été aussi une partie de 7 sacrements. Aussi dans l'œuvre, on voit des néons. Et pour moi, les néons sont aussi une manière de dessiner en couleur avec du vert. Les 2 jaunes représentent le jour et les 2 bleus représente la nuit. Le squelette fait une danse macabre, il fait un mouvement circulaire entre zombies et vivants. Au Moyen-Âge, c'était très normal de voir la mort littéralement dans les rues, mais aussi l'homme acceptait sa propre mort. Avec le développement de technologie, l'homme veut prolonger la vie dans un instant qui était devenu complètement fou. Mais aussi, pas seulement dans sa propre vie, mais aussi dans tous les produits et toute la production qu'on fait. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait depuis la grande révolution industrielle jusqu'au 21e siècle. Tous des matériaux, des choses qui ne peuvent rentrer pas dans la terre, dans le monde, dans la nature, qui ne sont pas recyclables. Et pour moi, c'est un peu une allégorie aussi de ce thème écologique quand même, parce que tout ce qu'on fait doit être pour l'éternité et c'est clair qu'on doit changer ce perspective.
A Day in the Life of Dance of Death est exposé en ce moment dans une salle du LAM, le musée d'art contemporain de Villeneuve-d'Ascq, une salle consacrée au tournoiement et aux possessions, autant vous dire que Joris van de Mortel est en très bonne compagnie. Vous vous souvenez, c'est là qu'a lieu cette magnifique exposition intitulée « Danse et brut, c'est à voir » jusqu'au 13 janvier. On retrouve aussi Joris van de Mortel à Bruxelles, au Beaux-Arts, le palais des Beaux-Arts de la ville, pour découvrir « Cachi Vache Boogie Boogie », une installation composé de collages, de dessins, néons bleus, ainsi qu'un hôtel constitué de haut-parleurs. Pour plus d'informations, rendez-vous sur son site internet www.jorisvandemortel.eu.
Merci Céline, et maintenant l'heure est venue de faire retour à l'atelier de Brecht Evans et d'en découvrir les richesses secrètes et les particularités.
Encore quelqu'un ? Café ?
Merci.
Alors, Brecht Evans, d'une part, la vue. Alors, effectivement, la vue, on va aller dans votre chambre, puisque le lit est mis sur les hauteurs de Paris et que depuis ce lit, cette banquette, ce divan, ce canapé, on peut contempler une partie de Paris. Alors, faites-nous la description la plus précise possible du paysage qu'on peut voir.
Ben, la chose qu'on peut tout de suite voir, et ça... Aujourd'hui, par contre, c'est la brume, mais donc je vous promets que normalement, là derrière, se cache le Sacré-Cœur, et moi, j'en suis très content. Mes amis parisiens, pas nécessairement, parce qu'ils me racontent ce que ça symbolise en vrai.
Vous donc, aimez le Sacré-Cœur comme objet architectural, comme lieu ?
Oui, comme truc à regarder de loin, absolument. Oui.
De loin ?
Oui, ok, d'accord. C'est le monument d'un grand projet raté. Massacre, c'est quand même beau quand le soleil se couche derrière. Et quand on grimpe encore plus dessus, vous me suivez, là on a...
Oui, on me suit. Oui, alors maintenant on a évolué sur le lit et on se penche. Et qu'est-ce qu'il faut voir, Brecht Evans ?
Là, à droite, on a l'église de Jourdain.
Oui.
Je pourrais presque voir mon ancien appartement. Et là, il y a un bâtiment au milieu. Sinon, ma copine et moi, on pourrait se saluer de fenêtre à fenêtre. Mais tout, ça, c'est tout juste raté. Et à gauche... Et il y a le reste de Paris. Aussi ça, en théorie. On voit encore vaguement le centre Beaubourg, là. Et normalement, on voit la tour Eiffel et tout ça aussi. Et on voit le rue de Ménilmontant en bas aller jusqu'à très loin.
Le coup d'œil possible depuis la chambre et le lit. Maintenant, on va s'intéresser à quelque chose de beaucoup plus restreint qui ne donne pas sur Paris, mais sur le ciel de Paris. C'est une lucarne. Alors la lucarne, elle a pour vous des caractéristiques puisque ça vous permet de vous tenir au courant de la vie des corbeaux. Là, cette lucarne-là.
Donc ça permet de voir les anus des oiseaux parfois qui viennent se atterrir dessus, prendre un peu de chaleur, je crois. Et... Ils sont pas là aujourd'hui, mais parfois je les vois comme ça à plusieurs, un peu.
Et vous ouvrez la fenêtre pour les accueillir ou...
Je peux pas. Je me suis acheté à un moment, comment on appelle ça, la petite échelle en corde que j'allais accrocher, mais je n'ai plus vraiment osé le faire. Donc cette fenêtre s'est pas ouverte depuis que j'habite là. Je crois qu'un jour il y aura assez de crottes accumulées pour devoir monter jusque là.
Il y a trop de crottes, ce sera pacifié, il faudra agir, absolument.
À gauche, il y a une petite porte qui conduit vers des combles où personne n'a été depuis clairement des dizaines d'années. Mais tout ça, c'est fermé avec du scotch depuis que j'ai lu quelque chose sur la punaise, l'épidémie.
Voilà.
Dangereux punaise qui va de plus haut en haut dans les bâtiments, je crois. Et j'en ai vu un jour. Et je me disais, ça y est, ils vont arriver à milliers. Et du coup, j'ai scotché le comble. Je ne sais pas depuis ce qui se passe là-dedans.
Le lit panoramique, la lucarne au corbeau. Alors, avec vous, Antoine Guillaume, maintenant, on va découvrir la douche.
Oui, alors on a un avant-goût de cette douche, d'abord par une sorte d'hôtel éclairé par une lucarne. Dans cet hôtel, une photo d'un vieil homme avec une longue pipe, et derrière des carreaux de faïence, de céramique, qui sont tous différents et qui ont l'air de sortir d'un livre de Brecht Evans. Alors, est-ce que c'est vous qui les avez faits ? Est-ce que vous les avez collectés ? Parce que ça rentrait en résonance avec ce que vous faites.
Moi, j'en ai fait pas mal, et puis ma copine et plein d'amis ont rajouté aussi. Là, je crois que c'est surtout moi et Céline qui ont fait cela. Et cette ce joli vieil homme, c'est mon grand-père, qui ne pourrait pas ressembler plus à un grand-père, je crois, avec cette gigantesque pipe. Puis tout le reste des carreaux, ils sont servis à faire un mur du salle de bain. Là, on aura l'acoustique salle de bain maintenant. Je pensais que normalement, quand on fait un truc aussi joli, après 2 semaines, on le voit plus. Mais quand même, chaque fois que je prends une douche, ça me donne du plaisir. Ouais. Bah là, il y a, je crois, une dizaine d'amis qui ont tous peint des carreaux à des moments qu'on a fait cuire après. Il y a certains qui ne savaient pas dessiner, ils ont écrit un peu. Et du coup, ou bien je garde cet appartement à toujours, ou bien il faut que quelqu'un le reprend qui adore le carrelage personnalisé, parce qu'on ne peut quand même pas... Ceci, c'est maintenant officiellement un monument parisien. On ne peut quand même pas abandonner ça.
Alors maintenant, Bret Stephens, on a quitté la chambre, on a quitté la douche, on est devant la bibliothèque, qui est une bibliothèque qui montre, c'est l'essentiel de vos lectures. Alors, je vois Antonin Artaud.
Ça, c'est avec l'intention de lire un jour plutôt que de l'avoir lu. Mm-hmm. Ces livres ne sont pas des trophées de lecture, c'est des intentions en général, encore. Ici, faut peut-être dire qu'on est en train de faire une promenade sur 30 mètres carrés, donc tout ceci, c'est un grand exercice dans utiliser chaque centimètre de l'immobilier parisien.
James Ellroy, vous êtes un assidu de James Ellroy?
Ça, on a White Jazz de James Ellroy que j'ai 2 fois tenté de lire. Je crois que la deuxième fois, je suis arrivé jusqu'à page 60. Et puis voilà, pour ça, il est toujours rangé là. Dans un appartement comme ceci, un livre n'est pas toujours un cadeau. Parfois, recevoir un livre veut dire parfois devoir en jeter un autre. Donc parfois, quand je les ai lus, je m'en débarrasse.
Et puis on voit aussi entre le livre de Georges Perec, la vie mode d'emploi, et je ne suis pas très étonné de le trouver là, parce oui. Que beaucoup de vos livres font penser à cette manière qu'a Perec d'épuiser un lieu, et notamment un immeuble, et d'en raconter tous les détails, je le vois ici. Alors il y a d'un côté la vie mode d'emploi, il y a un DVD de Dans l'œil d'un tueur, et puis au milieu, il y a les œuvres complètes d'Éric Rohmer. En DVD, alors là, pareil, Rohmer, Perec.
Rohmer, c'était censé être un cadeau pour quelqu'un qui n'en a pas voulu, donc pour ça, du coup, je l'ai, moi. Et le Perec, là, peut-être là, vous voyez qu'il y a plein de petites pages marquées. C'est qu'au début, en faisant mon dernier livre, là, Les Rigoles, j'avais plein de temps, il n'y avait pas encore question de deadline. Donc à un moment, je me suis amusé pendant un mois à dessiner pour juste une seule page du livre en détail l'immeuble décrit dedans. Donc tout ce qui est possible à rendre avec un pinceau, je l'ai marqué pour pouvoir jour après jour faire cet immeuble en le plus grand détail. Ça c'est un des exercices dans le livre qui serviront que à moi et les 5 ou 6 gens qui seront aussi geeks que moi avec ce livre. Les gens qui c'est pour récompenser les gens avec l'esprit détective.
Il y a une planche qu'on a vue exposée à la Galerie Martel de très grande taille, qui est une peinture, c'est celle-là, et qui est dans Les Rigoles, c'est-à-dire qu'on a un immeuble en coupe, comme ça, qui est l'immeuble de Jonas. Et alors, quand on voit l'original, on est très époustouflé, et quand on le voit réduit dans le livre, on se dit, mon Dieu, il vaut mieux avoir de bons yeux, je vais changer de lunettes, combien de temps je vais me perdre dedans? Est-ce que c'est aussi cette expérience que vous voulez pour le lecteur de vos livres? François, vous citez tout à l'heure la volonté narrative qui est prendre, mais elle est aussi très picturale chez vous, et parfois le narratif se situe à l'intérieur d'une seule image. Vous avez envie que votre lecteur, voilà, il retourne sans cesse pour retrouver des détails, pour retrouver du sens.
J'ai envie qu'il puisse le faire, en tout cas. J'ai envie qu'il puisse lire le livre en... j'ai jamais eu l'occasion de lire ça comme un lecteur normal, évidemment, mais je suppose qu'en théorie, en quelques heures, on l'a peut-être lu, non? Mais qu'il sache, en le faisant, qu'il peut retourner et aller creuser encore plus loin. Je crois que en y mettant tant de détails qu'on n'est pas obligé de voir, il y a quand même à moi une sensation d'être dans un monde de si je voudrais, je pourrais explorer encore plus, et que c'est pas que le décor est profond, tu vois, que c'est pas juste minimaliste et t'as tout vu tout de suite, qu'en théorie, tu te sentirais dans une ville ou que t'aurais l'impression qu'on est dans un vrai monde et si j'aurais voulu, j'aurais pu suivre ce figurant et avoir vécu toute une autre histoire encore. C'était l'envie du début même, avant de travailler les personnages principaux, c'était de vraiment faire un monde format poche, un livre infini comme ça, qui a aussi une ambiance un peu de belles heures ou d'une sorte de Bible illustrée ou une sorte de livre infini qu'on peut éventuellement lire pas linéairement aussi. Qu'on peut, à moins dès la deuxième lecture, commencer à feuilleter gauche et droite et aller.
C'est pour ça qu'il y a un lien évident entre le premier livre, celui que vous avez fait découvrir en France, en tout cas Les Noceurs, et votre dernier, Les Rigoles. On est probablement dans la même ville, en tout cas il y a au moins un lieu commun qui est cette boîte de nuit qui s'appelle le Disco Harem. Et on pourrait se dire qu'en cherchant bien, en relisant Les Noceurs, peut-être qu'on trouverait parmi ceux qui font la fête dans cette discothèque les personnages qu'on va retrouver développés dans les Rigoles. Là on est vraiment dans le principe d'un univers complet à explorer de livre en livre.
Ouais, en réutilisant des lieux, et effectivement, il y a des figurants qui reviennent comme des personnages plus importants parfois, ou il y a des personnages importants qui reviennent juste rapidement dans le décor. C'est comme si c'était pour un peu engager l'ancien livre, pour rapidement, juste pour avoir encore plus d'univers en théorie, que quelqu'un qui l'aurait lu l'autre aurait une sensation encore d'un retour dans le même lieu. Il y a encore beaucoup de détails qu'on n'a pas explorer la dernière fois, ou de faire un pont entre les deux, et comme ça, un monde écrit en 340 pages en devient un écrit en 500 pages, en théorie, de dessin excessivement maximaliste.
Stevens, Antoine l'a dit, vous avez été formé à l'Institut Saint-Luc de Gand, qui est un endroit mondialement célèbre, où sont sortis beaucoup de grands dessinateurs. On avait rencontré récemment Förster. Question vient évidemment de vous poser la question des influences, des moments importants dans votre formation. Quand on regarde les albums après Les Noceurs, on pense bien évidemment à l'expressionnisme allemand, à Otto Dix, les fameuses Nuits d'émeute, tant pour le dynamisme farouche qu'il y a dans la page que pour les couleurs. On pense à d'autres créations plutôt cinématographiques. Moi, je pense beaucoup au nouveau cinéma flamand, Groningen, Varmunda, Michael Roskam aussi en lisant vos albums. Alors, quels ont été les... Je vous parle pas de Jean Rey, le maître de Gand, ça c'est littérature fantastique, mais quels ont été les moments forts dans votre étape esthétique?
J'ai difficulté à me souvenir de tout ce qui m'aura influencé côté en cinéma ou en littérature. Là, je ne sais pas retracer explicitement. J'ai fait ça sous l'influence de ça. Je crois que ça, je digère plus discrètement et lentement. Donc, c'est que pour peinture et dessin que je peux facilement donner des noms. Et c'est avec Les Noceurs, j'avais besoin de quelque chose qui cassait qui pourrait casser l'image en morceaux. J'arrivais pas, j'étais encore marié à une sorte de perspective. réaliste.
Signalons que Innocer, c'est votre cinquième album. Il y en a eu quatre auparavant.
Oui, c'est presque ça. Il y a quatre, et ça c'est pour les vrais cognoscenti qui savent qu'il y a trois albums cachés en Flandre encore qui viennent avant les Noceurs. J'insiste pas qu'ils soient traduits, c'est ce que j'appelle les juvenalia plutôt.
J'étais... On peut les citer d'ailleurs. Un message venu de l'espace, histoire d'un extraterrestre qui fait escale sur la Terre, mais pour répondre à un besoin urgent. Vincent, que vous avez fait avec un CD, donc un groupe néerlandais. Et puis les animaux de la nuit, à la limite du fantastique. Donc avant les Noceurs, il y a eu les juvenilia, effectivement. Ouais. Et avec les Noceurs, c'est la rupture.
Il a ses aspects juvéniles, ses livres aussi, mais c'est des aspects juvéniles que j'aime toujours. Comme je crois que les idées de quelqu'un de 22 ans qui sont dedans me plaisent toujours, narrativement, même si je ne suis pas toujours d'accord avec. Sur les influences, Autodix ne l'était pas. J'ai dû voir que les choses moches et rater les choses qui auraient dû m'instruire. C'était Georg Gross qui m'a permis de lâcher l'espace réaliste, surtout, et même les choses de transparence, comme ça, de commencer à les utiliser. Fallait tout simplement que je me rende compte comment je mets un truc qui est important en grand et un truc qui est moins important en petit, sans m'occuper des réelles proportions. C'était aussi, il fallait une sorte de cubisme en fait, où tu essaies juste de montrer avant tout les éléments que tu trouves importants et de enlever ou cacher ou rendre plus petit les choses moins importantes. Il m'a fallu Gross pour voir ça. C'était des autres artistes auraient probablement pu me montrer ça, mais comme j'ai cherché à faire des images de la ville brillante et dynamique, que Gross était évident à regarder. Plus tard, avec les amateurs, c'était on quittait la ville. Je crois qu'on sent que j'ai un peu peur de quitter la ville parce qu'au début des amateurs, il y a encore un double page avec une grande image de la ville aussi complexe que possible, comme une sorte adieu avant qu'on se soumette à faire du paysagisme plutôt. Parce que le reste du livre se passe à la campagne, du coup, fallait regarder Orkney, évidemment. Ça, vous avez dû voir tout de suite. Et sinon, un peu moins connu, Charles Brookfield, c'est de l'aquarelle. Et si j'ai bien compris, il y a deux époques dans son travail que j'aime. C'est une été quand il était ado et un peu soudainement visionnaire. Et puis, vieux, quand il a après faire de la peinture plus réaliste, il s'est replongé à faire des aquarelles, du paysage, en allant les bottes dans la boue. Et il y a un truc qui résonne beaucoup, c'est qu'il essaie de dessiner des effets que c'est un peu vivant, ces paysages, dans le sens que si la lumière fait un truc bizarre, il essaie d'exagérer l'effet d'une sorte lumière d'hiver. Il fait des traits qui communiquent quelque chose plutôt que d'être réaliste ou ça bouge, ce dessin. Il a tendance, quand il dessine un marécage, de dessiner les buissons, dessiner les plantes d'une façon avec des lignes qui suggèrent le son des cigales, par exemple. On entend des moustiques dedans. Parfois, quand il dessine un soleil, il va le dessiner parfois en noir, parce que quand on regarde dans le soleil, en vrai, on a une boule noire qui est empreinte sur nos yeux. C'est impressionnisme d'une manière que je trouve plus cool, plus inspirant que ce que je me souviens des impressionnistes plus connus sous ce nom. Ou qu'est-ce que je l'ai vu faire encore les lignes électriques dans un paysage. Ils sont dessinés d'une façon qu'on entend le zzzz,
le son de l'électricité passer.
C'est exactement ça, c'est-à-dire que dans votre façon d'utiliser l'aquarelle, et avec, y compris tous les accidents possibles, et j'imagine que c'est aussi ce qui vous séduit dans cette technique qui est quand même extrêmement difficile, c'est qu'on parlait d'expressionnisme à l'instant, mais ce que vous donnez au lecteur, c'est l'impression. L'impression d'une rencontre, ce qu'on perçoit quand quelqu'un parle, ce moment où on ne l'écoute plus vraiment et où la personne en face de nous semble se dissoudre, ou ce moment où quelqu'un qui était très petit va apparaître très grand parce qu'il vous domine presque. Et ça, vous vous intéressez beaucoup au rapport de force entre les personnages, les rapports de pouvoir qui va prendre le dessus dans une relation, comment ça peut s'inverser. Et tout ça, il est toujours très important pour vous d'en donner une signification graphique. Ça ne passe pas... forcément par ce qui est dit, par le dialogue, même si on sent que vous devez beaucoup écouter ce qui se passe dans les terrasses de café autour de vous, que vous devez le noter pour capter ce langage véritable qui ne dit rien, mais qui est très parlant malgré lui, mais que tout passe avant tout par l'image chez vous.
Oui, oui, oui. Les gens dans mes livres ne s'expriment pas super bien. Ils ne s'expriment pas comme une personne assise à une table qui a le temps de réfléchir comment on dirait cette phrase. J'essaie de les... J'essaie de les faire parler comme on fait quand on pense à voix haute, c'est-à-dire qu'on commence une phrase et la deuxième partie de phrase, c'est la deuxième partie du prochaine phrase, parce qu'on on fait des sautes bizarres. Dans, comme, comme vous voyez quand moi je parle, je suppose, de ma vie, rarement on fait une phrase complète. et visuellement, j'essaie aussi dans les dialogues de leur donner... un air qui évoque dans quel état d'esprit ils sont, ou bien pour eux-mêmes, ou bien pour ceux qui les voient. Il y a parfois... c'est déjà la même chose, il ne faut pas toujours redessiner de nouveau le visage. Surtout ça, c'est, si tu es dessinateur, il faut faire très gaffe avec les visages, parce qu'on est programmé de les regarder avant tout. Je crois que tu pourrais faire un gigantesque dessin, plein de détails, des choses qui se passent, mais si quelque part dedans, il y a un petit visage, surtout s'il y a des yeux... On va regarder la moitié du temps. On va avoir difficulté à regarder même le reste des détails parce qu'on est biologiquement programmé pour regarder si cette créature ou personne nous veut du bien ou du mal, je crois. On est fait pour. Donc il s'agit parfois de cacher les visages. Parfois les visages deviennent une ombre noire. Parfois les détails du corps disparaissent et réapparaissent. Souvent c'est le... l'expression des épaules et des mains qu'il faut avant tout voir, et moins le visage. Parfois, c'est que le visage et tout le reste du corps doit disparaître. Parce que nous, quand on se regarde, quand on parle, on, bien sûr, on n'a pas tout le temps, on n'est pas en train de faire gaffe à tout ce que fait tout votre corps. Là vous hochez la tête, rassurant, et c'est ça que je vois. C'est pas tout le, je ne vois pas si vous êtes rasé ou pas en ce moment.
C'est pas le cas.
Oui. Est-ce que vous voyez un livre qui dit 50 years as... Ah, le voilà.
Ont tous une couleur dominante, ils sont parfois quasiment monochromes, et surtout, ils s'expriment dans cette couleur. Alors, est-ce que c'est un choix de lisibilité, ce qui permet, dans une page assez compliquée, de repérer tout de suite qui parle, ou est-ce que c'est une façon aussi de caractériser vos personnages ? Quelqu'un qui sera bleu sera plus froid, quelqu'un qui est rouge est plus emporté, enfin, et avec des nuances après, puisque tout cela peut se combiner avec la forme même qu'ont ces personnages.
C'est avant tout une astuce de lisibilité. Quand les personnages parlent, leur couleur de texte correspond à leur corps, en général, et ça me libère des bulles. J'ai pas besoin d'avoir une petite fléchette vers le personnage qui parle. Et pas avoir des bulles, ça permet de moins interrompre l'espace, la profondeur ou la liberté du dessin. Un petit ballon, c'est un étrange élément rajouté dans des dessins constamment. C'est avant tout une astuce de lisibilité. te libère aussi de le dessiner chaque fois en gros détail, parce que si la seule chose qui définit ton personnage, c'est qu'il porte des lunettes, ça, tu vas pendant 340 pages dessiner des lunettes tout le temps. Il faut qu'on voit bien les lunettes. Du coup, quand on voit le personnage de l'arrière, on ne voit pas qu'il a des lunettes. C'est limitant. Donc, au début, j'ai fait gaffe avec les rigoles d'avoir mes trois personnages principaux, de les donner et une couleur signalant. Il y a un rouge, un bleu et un jaune dans les personnages principaux. Et aussi de leur donner du motif très reconnaissable. Il y a quelqu'un qui porte tout le temps un motif camouflage. Quelqu'un d'autre, la plus grande partie du livre, porte un motif plume et un chapeau, ce qui signale aussi rapidement avec qui on est. Avec toutes ces expériences graphiquement complexes que j'ai fait dans ce livre, qu'à moi, on n'a pas difficulté de repérer où sont les personnages et comment ils se sentent et tout ça.
D'autant que vos personnages sont en métamorphose constante. Alors ça atteint un point fascinant dans Panthère, avec ce personnage de prince Panthère, aussi séduisant qu'inquiétant, réconfortant et un peu limite parfois dans ses câlins, on dira, qui d'une image à l'autre n'est jamais le même. Et où par sa métamorphose, et on sait toujours quel est le personnage, mais vous dites tout de suite la situation selon qu'il a un aspect terrifiant, un aspect de dieu khmer, ou qui ressemble à Hobbes dans Calvin et Hobbes.
Ouais. Ça, c'est l'exemple le plus dramatique de ça. La façon que le livre est conçu permet aussi de prendre des énormes libertés avec ce personnage et son corps, parce qu'il n'y a en général même pas de décor. Surtout lui et la petite fille qui parle. Et lui... Si Panthère se passait dans un monde plein de panthères et des autres fauves, j'aurais pas pu faire ça. Il y a qu'une seule panthère dans ce livre, donc chaque fois qu'on voit des oreilles pointues et des taches rondes et un queue, on sait que c'est lui. Et du coup, ça laisse le maximum de liberté avec sa forme qui était nécessaire là, parce que c'est un personnage qui ment constamment. Il ment pendant 120 pages.
Alors, Panthère, ça... C'est un album qui, enfin, c'est pas un album, mais c'est un livre qui narre l'histoire singulière, fantasmatique et fantastique d'une petite fille et du prince Panthère, qui vient de Panthéria, le pays magique. Si on prend les trois autres albums, qui sont Les Noceurs, Les Amateurs et Les Rigoles, à chaque fois, c'est un personnage solitaire, un peu loser, un peu en échec social, qui est confronté à la communauté. Et ça, j'aimerais que vous nous parliez de ce thème récurrent. Dans le premier, que ce soit les noceurs, c'est assez difficile parce que ce personnage a organisé une petite fête chez lui où tout le monde est venu uniquement parce que tout le monde croit que va y venir la coqueluche mondaine de l'endroit. Et quand on apprend que ce personnage ne vient pas, eh bien tout le monde s'en va. Et qu'après, tout continue dans cette espèce de déshérence et de désespoir. Dans un autre album, Les Amateurs, c'est un artiste qui croit être invité à un festival d'art, qui est en définitive l'hôte d'une communauté plutôt bizarre, de gens qui c'est tout sauf un festival d'art. Enfin, néanmoins, il y aura une création qui va se faire dans un climat bizarre. Et puis Les Rigoles, c'est pareil, c'est un personnage qui est confronté à une autre figure qui s'apprête à partir à Berlin, qui s'apprête à quitter la ville, et là aussi qui est seul face à la ville et face à la communauté. Donc, à quoi tient cette espèce de récurrence du solitaire en souffrance et en difficulté avec le monde environnant?
Est-ce que vous comptiez Panthère dans ces personnages
J'excluais Panthère parce que c'est face à face.
Moi, je la remets, parce que dans Panthère, il y a une petite fille dont la mère est partie. On ne sait pas si elle a quitté son mari ou si elle s'est suicidée. Et il y a une vraie solitude qui est celle de la chambre d'une petite fille, mais qui elle-même n'est plus un havre de paix, enfin qui est la chambre aussi de tous les dangers. Donc moi, je l'inclus, cette petite fille, dans les personnages que vous avez décrits.
Le débat fait rage.
Les noceurs, c'est un mécanisme simple. Je crois que il me plaît toujours, mais dans Les Noceurs, tous les personnages sont dans le même jeu. Un jeu adolescent de qui est le chef du troupe et qui est le rejeton, et tout le monde participe à ça. Et Les Rigoles qui ressemblent à Les Noceurs, une fois que je me rendais compte que Les Rigoles avaient beaucoup de similarités, j'ai mis l'emphase, j'ai repris les lieux et essayé de de faire ressembler beaucoup les livres pour que les différences se voient mieux, je crois. Les rigoles, c'est un monde où il n'y a pas une clique et pas une seule hiérarchie. C'est un lieu où tout le monde bouge plus dans ses propres groupes ou solitairement, comme dans, déjà un petit peu plus comme dans une vraie ville, où on ne sait pas tout ce qui est le, comment vous disiez, qui est le seul Lotario de la ville ou quelque chose. Alors, écrire les dialogues des gens qui s'entendent bien est difficile. Ça, on sait, non? Que c'est facile, plus facile d'écrire des conversations qui se passent mal que des conversations qui se passent bien. Parce que les conversations... C'est sûrement pour ça que mes personnages sont toujours en train de rencontrer des inconnus, des nouveaux gens, ou de retrouver des gens qu'ils n'ont pas vus depuis longtemps. Ça a l'air de revenir tout le temps aussi. Ça, c'est, je suppose que quand il y a besoin d'exposition dans le dialogue, c'est le plus naturel où, lieu où le mettre, parce que c'est le lieu où on peut dire « Alors, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé depuis 3 ans avec vous ?» Mais aussi, pour écrire un truc qui me semble réaliste, moi, en tout cas, je me souviens tellement mieux des conversations qui ont grincé, qui sont passées difficilement, que les conversations avec quelques Parisiens qui s'expriment super bien, qui se marrent, qui s'aiment entre eux. C'est difficile, le jour après, de construire en détail comment on formulait une phrase, parce qu'on n'était pas en train d'écouter la façon de... on n'était pas en train de prendre des notes quand la conversation se passait bien, mais quand un truc en général se passe mal, on prend des notes, même pas seulement en conversation, juste n'importe quelle situation, j'allais dire saucisson, je crois, n'importe quelle situation qui se passe mal, on va sûrement automatiquement prendre des notes pour que ça nous arrive plus jamais. Donc ils sont plus griffés dans notre souvenir. Ça peut jouer dans cette choix de personnage avec l'ambiance solitaire. Parce que même dans Les Rigoles, par exemple, la plupart du temps, les gens sont quand même en train de parler à des gens qui... ils ont un moment bien connu. Donc peut-être pas si solitaire que ça, mais clairement, il y a quelque chose qui les sépare de leur compagnie. Les gens sont en train de parler pas dans le même sens, quoi. Ils sont pas tout à fait en train d'arriver... à communiquer super bien.
Comment travaillez-vous vos dialogues, puisque sur toute la durée du livre, ça parle tout le temps. Les personnages n'ont de cesse d'échanger. Il n'y a pas de moment de mutisme, de silence. On est dans un échange permanent, une espèce de grande, un peu comme la comédie italienne. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de babil, de discours permanent. Les gens échangent et n'échangent pas pour rien d'ailleurs, puisqu'ils se parlent d'eux-mêmes, ils parlent de leur vie, ils définissent des situations, des rapports, ils témoignent d'un rapport au monde, d'un état d'être et tout. C'est des discours pleins. Comment élaborez-vous les dialogues? Alors est-ce qu'effectivement il y a des carnets de notes que vous prenez dans le quartier, l'oreille traîne et vous, comme ça, vous récupérer des lambeaux de dialogue, ou est-ce que vous jouez à vous-même? Est-ce qu'il y a un Brecht Evans, comédien, qui teste ces dialogues ou qui les teste auprès d'autres personnes? Comment fonctionne le dialoguiste?
Ça m'amuse que tu parles de comédie italienne, parce que moi je l'appelle mon livre parisien, parce que ça correspond parfaitement au temps que j'habite à Paris, et tout le monde parle 3 fois plus qu'avant dans mes livres. Je suis devenu plus bavard à cause de vous. Je mets la faute chez vous.
D'autant que le lieu détermine le dialogue, c'est-à-dire que les propos que les gens tiennent dans des cafés, la plupart du temps c'est dans des cafés, dans des clubs, dans des dancing, on tient un certain type de discours dans ce type de lieu. C'est le lieu qui informe le discours. S'ils font du vélo dans la campagne, ce sera autre chose. Si c'est un mariage, c'est encore autre chose. Donc là, vous avez aussi le poids du lieu, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'extraordinaire influence du cadre sur le propos. Il y a une osmose véritablement entre les deux.
Mais c'est à la base, c'est logique de. Je me dis que j'ai fait il y a 10 ans presque Les Noceurs, qui est un livre de ma vie de sortie urbaine, qui est en fait la seule chose que je fais vraiment si je suis pas à mon bureau en train de dessiner. Ça, c'est le maladie de beaucoup d'auteurs, de peut-être avoir commencé à écrire assez tôt et pas avoir tenu un vrai job pendant longtemps. Donc pas tout le monde sait naturellement écrire de monde de travail, par exemple. Du coup, là, on est 10 ans plus tard, je pense que j'avais de nouveau droit à montrer des gens sur des terrasses en train de bavarder, c'est-à-dire ma vie, quoi. C'est de nouveau un livre très qui parle de la vie à moi et des gens que je connais.
Il y a quand même un coin important de votre atelier qu'on n'a pas exploré, c'est le centre créatif, c'est la planche à dessin qui est entourée de couleurs, d'encre, de tiroirs avec des taches de couleurs dessus. Alors, comment vous commencez un dessin? Est-ce qu'il y a une sorte de dessin automatique qui vient d'après une vision que vous avez? Est-ce que les accidents dont je parlais, que peut produire la peinture, l'aquarelle, sont des éléments créatifs qui peuvent vous emmener dans une direction que vous n'aviez pas attendue?
Dans mon dernier livre, j'avais en général des croquis avant de commencer d'entamer une page. Je savais en général où sont les éléments importants. Et ça, c'était sur un petit dessin séparément. Et puis, quand je dessine, je passe au format plus grand, au papier plus chic, et je commence à chercher à placer ces éléments avec des tâches. Je fais des signes avec le pinceau pour commencer à mettre la composition. Et comme ils sont faits en couleur légère, souvent on ne les voit pas dans le résultat final. Mais il n'y a pas de crayonné. Chaque trait que je fais est indélébile. Et puis, ça commence à passer d'un dessin très clair, très flou, très vague, à de plus en plus foncé et précis. Et toujours en faisant gaffe de ne pas faire trop, d'arrêter. Quand tout est là, qui communique quelque chose, il faut arrêter de rajouter quoi que ce soit parce que tu vas enlever. Chaque détail pas parlant que tu rajoutes enlève au détail parlant. Parfois, de dessiner en transparence peut aider avec ça, dans des scènes complexes, parce qu'on peut voir à travers... pour donner un exemple très typique pour des dessins de fêtes, etc., on peut voir le sol, si le sol a un intéressant motif, on peut le voir à travers les personnages dessus, même si le lieu est blindé. Ça peut être ça. Ou on voit comment on construit un comptoir, même s'il y a plein de gens au comptoir. Et... ce que je peux à peine prévoir, c'est ce que vont être les couleurs, parce qu'il y a jamais du colorisation. Il y a jamais un contour que je vais remplir avec des couleurs. C'est toujours dessiné dans la couleur que ça doit être. Si ce soit des lignes en couleur ou des petites surfaces, des formes en couleur, c'est toujours direct. Pour maîtriser ça, il s'agit de 9 minutes sur 10, regarder le dessin, pas être accroché au bureau en train de travailler. Je crois que ça me permet aussi de ne pas devenir fou comme BDiste. Je crois que si en faisant un BD, le système est trop mécanique, si tu passes de croquis à encre et puis couleur, ça ne garde pas assez notre attention maximale et on risque de faire 3 fois un truc à moitié, je crois. On risque de faire une croquis pas géniale parce qu'on va résoudre ça en encre et puis en encre, en fait, on oublie de vraiment résoudre quoi que ce soit parce qu'on avait déjà les croquis qu'on est en train de tracer. Et puis en couleur, ben, tout le dessin est déjà là, allons vite ou allons même déléguer ça peut-être à quelqu'un de rajouter les couleurs. Donc il s'agit juste de rester attentif. En le faisant. Quand c'est le côté graphique et couleur qui est très important, il s'agit souvent de regarder Et je commence à voir un truc clignoter dans un coin. Disons, je commence à voir là, il y aura ça en vert. Mais attendons encore un peu que pour avoir encore un autre petit truc. Oui. Et à gauche, là, il faut ça en noir très fort. Et ça clignote un peu. Et peut-être, si j'ai un troisième truc, je vais me remettre à la table de dessin et je vais assez vite faire ces trois choses pour garder une sorte... Et comme ça, à chaque couche, ça garde un truc assez direct et un peu croquis parfois. Sauf quand ça doit être très précis. Il faut que tout soit possible dans le dessin, qu'il n'y a pas des combinaisons de couleurs qui reviennent chaque fois, qu'il n'y a pas de règles sur jusqu'à quel point ça peut être précis ou flou. Mon dessin est devenu reconnaissable pour les choses que je répète dedans, mais j'essaie toujours d'élargir ce qui est possible dedans, que les différentes ambiances peuvent trouver leur place dans ce qui est une sorte plus en plus grand domaine, sorte pays qui s'agrandit, dans lequel je peux inviter des nouveaux styles, des nouvelles approches. D'avoir dans un dessin qui est largement très pictorial, d'avoir des moments qui sont peut-être très, très chinois comme dessin, mais combinés avec un truc plus brutal ou même très, très BD. Dans un de mes dessins détaillés, on devrait pouvoir mettre un bonhomme grogné franco-belge sans que ça débalance le tout, sans que ça fait scandale. Voilà, tout doit être bienvenu dans mon dessin.
On parlait des influences tout à l'heure, il y en a une qui, alors peut-être que je vais me tromper complètement, mais le fait que vous ayez fait vos études à Gand m'a mis un peu la puce à l'oreille. À Gand, on peut voir dans la cathédrale un monument de l'art mondial, qui est le retable de l'agneau mystique des frères Van Eyck. Et en relisant les amateurs, j'ai eu une illumination comme ça, parce que le livre est enchâssé dans une jaquette, et si on la déplie, on a une grande scène comme ça, avec 12 dessins qui résument l'histoire, mais de façon quasiment mythologique ou biblique, comme les 12 stations du calvaire. Et là, je me suis dit, est-ce que vous ne faites pas partie de ces admirateurs de ce retable? Est-ce que ça ne serait pas une influence secrète cachée dans votre œuvre, Van Eyck?
Non. Si quelqu'un de l'époque a compté dans les amateurs, c'était Giotto, plus Giotto, une façon de peindre très narrative. Qui plaît beaucoup, qui utilise des astuces qui m'étaient utiles aussi. Avec Giotto, on a toujours un peu l'impression de comme un décor de théâtre, un peu, non, pas très profond, où tout doit. Là aussi, comme souvent à l'époque, les éléments importants sont grands. Donc les personnages importants, ils sont, on va dire, la moitié de la hauteur d'une peinture. Mais comme il veut aussi montrer toute une ville, il veut quand même vraiment dessiner une ville aussi. Il fait le rez-de-chaussée très grand, le premier étage plus petit, et les troisième, quatrième, cinquième étages sont minuscules, mais on a compris ce qu'il veut dire, c'est que c'est un grand bâtiment. Mais il a su le loger dans son rectangle d'une façon efficace, parce que c'est la même chose avec laquelle Gross m'avait déjà aidé, tu vois, de pas rendre des choses importantes ou petites juste à cause des proportions réelles, par exemple.
Brecht Evans, pour conclure notre rencontre, est-ce qu'on peut déjà parler de votre prochaine publication? On est en fin d'année 2018, en début 2019, 2020, qu'est-ce qu'on va découvrir de vous?
Je le découvrirai avec vous. Là, je me suis très explicitement promis de pas me laisser tenter par quoi que ce soit de costaud. Je commence à avoir des petites envies à voir avec le film animation, parce que les dernières années, je m'y suis un peu mêlé à des projets des autres d'animation. Ça pourrait être une piste. C'est la première fois dans ma vie que je ne suis pas complètement convaincu d'aller faire des romans graphiques jusqu'à la tombe. Là, tout est vraiment possible. Mais surtout, du vacances, en fait, serait intéressant, je crois. De vraiment, je me garde un peu à zéro. Parfois, je fais des notes dans des carnets, mais je les nourris pas trop. Je les laisse pas pousser dans un truc irrésistible tout de suite. Je crois que je veux rester un petit peu au point zéro pour voir vraiment dès le début pourquoi je fais quelque chose avant que je sois reparti encore pour 4 années, par exemple, sur un projet. J'ai toujours eu ce truc de... je parle trop, hein. Il faut que j'ai toujours pas fait un roman graphique, j'ai toujours pas fait quelque chose avec la densité et la complexité d'un vrai gros livre. Et maintenant, je l'ai fait, je le sens. pour le bien ou mal, je sens que ça, voilà, que ça, c'est, ça n'est plus un but en soi. Donc en gros, j'ai aucune idée ce que je vais faire après. Ça, c'est très agréable. You bug on the beach. What is going to your feet? You're sexy, sexy, baby. You're sexy, baby. When I look down to your legs, on up to your thighs, you're sexy, sexy, baby. Ooh, yeah. Now I don't want to be rude, oh, but you turn me on. Your breath, I can squeeze and caress. Hey baby, I want you, girl. Ooh, your breath, I can squeeze and caress. Hey baby, I want you, girl. Now I just want to hold you tight and make love to you.
Ben merci Brecht Evans de nous avoir accueillis dans votre nid d'aigle parisien. On sera bien sûr attentif avec Antoine Guillot, au mauvais genre, de tout votre futur et de tous vos possibles. On termine cette émission bien évidemment avec Christophe Beer.
En 1997, Didier Liardet, doctorant en lettres à l'université d'Aix-Marseille, soutient sa thèse sur la télévision et la sérialité narrative. L'étudiant n'est pas un néophyte. Il a déjà rédigé un livre en 1995 sur la série favorite de son enfance, Les Mystères de l'Ouest. C'est aussi un obstiné qui choisit l'indépendance, devenant son propre éditeur. En 2001, il crée à Draguignan, avec Michel Roussel, la société coopérative des éditions Iris. Fidèle à une approche historique et à une description formelle et thématique, il totalise désormais près d'une vingtaine d'autopsies de séries, épisode après épisode, saison après saison, leur donnant des sous-titres programmatiques. Les Envahisseurs ou Le Futur Recomposé, Zorro ou L'Emblème de la Révolte, Le Frelon Vert ou Le Sceptre de la Justice, Le Prisonnier, une énigme télévisuelle. Les œuvres anglo-saxonnes dominent, mais les Brigades du Tigre sont du catalogue. La toute dernière parution s'attaque à un monument de renommée mondiale, Columbo ou l'anatomie du crime, dont le concept de l'énigme inversée, révélant d'emblée l'identité du meurtrier, a révolutionné la série policière. L'examen minutieux des 69 épisodes et téléfilms permet à l'auteur d'établir un portrait fouillé du lieutenant de police le plus mal fagoté de la télévision américaine, anti-héros d'apparence, dont les scénaristes développent les tares et les manies pour mieux surprendre le téléspectateur par son intuition et ses qualités d'observation, et que Peter Falk incarne avec un perfectionnisme virtuose. Créateurs de la série, William Link et Richard Levinson propulse Columbo dans le Los Angeles feutré des quartiers huppés, dédaignant les figures standards du crime organisé. Les morceaux de bravoure ne reposent plus sur des fusillades ou des poursuites en voiture, mais sur la découverte d'un indice a priori insignifiant qui échappe à l'intelligence du coupable. Tout se resserre sur la présence saugrenue du policier en imper fripé se baissant sur la moquette des villas luxueuses, confronté à des assassins que l'argent et le rang social engluent dans une impunité arrogante. Columbo est un théâtre des antagonismes. Certains y voient une illustration de la lutte des classes. Liardet écarte cette lecture marxiste trop manichéenne. Columbo, issu d'un milieu modeste, époux heureux et sans ambition, économe et à $11,000 annuels de salaire, est un modèle vertueux de la réussite américaine. Appliquant les principes de la Constitution, agissant pour le respect des lois, il démasque les élites corrompues par l'égoïsme et l'avidité, sans esprit de vengeance, mais en exerçant son métier avec une satisfaction enjouée qui n'exclut pas la roublardise d'un acteur en représentation. Colombo est aussi le jeu du crime.
Toute l'équipe de Mauvais Genre, Laurent Polleres et Aboutata, Céline Duchesnay, Claire-Martin Duguerre, Antoine Guillot, Christophe Bire et François Angelier vous remercient d'avoir suivi l'émission. Rendez-vous samedi prochain pour l'ultime de 2018. Nous serons en compagnie de Klopchop et de Pacôme. Tiellement, d'ici là, bonne nuit à tous.